Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment expliquer qu'un apprenti magicien ensorcelle des générations de lecteurs et de lectrices touchés, émerveillés, inspirés par les aventures d'Harry Potter et de ses amis, Ron, Hermione, Hagrid et de leurs professeurs, Dumbledore, Minerva, McGonagall, des générations effrayées par la figure du mal absolu, Voldemort, un mystère qui ne s'épuise pas depuis plus de 20 ans. De quelle façon l'œuvre de la géniale J.K. Rowling a su toucher le cœur de la jeunesse et au-delà, pourquoi cette formidable saga est-elle devenue un roman d'apprentissage pour des générations de lecteurs, une fiction morale et pas moralisatrice, pas manichéenne pour un sou, profonde, qui éduque à l'amitié, au courage, à la solitude, aux épreuves de la vie, à la finitude et à la puissance de l'amour, et qui nous invite à grandir et à se détacher de l'enfance. Nous explorerons les grands thèmes de la saga Harry Potter qui contribuent à l'apprentissage des lecteurs de tous les âges. De 8 ans à 108 ans, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 pour nous dire combien Harry Potter vous a fait du bien. Et si vous n'avez jamais lu ou vu Harry Potter, vous comprendrez peut-être mieux ce qui fascine vos enfants et vos petits-enfants. Bonjour Gwenaëlle Boulay.
Bonjour.
Lectrice d'Harry Potter ?
À fond.
Oh là là. Bon, alors quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent ?
Eh ben alors aujourd'hui, je vais moi aussi vous parler d'un monde magique. Un monde dans lequel tous les parents d'enfants actuellement en classe de terminale sont plongés. C'est le monde fabuleux de Parcoursup.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Harry Potter.
Difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre ?
Pas à Serpentard, pas à Serpentard.
Pas à Serpentard, n'est-ce pas ? Tu es sûr ? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute, non ?
S'il vous plaît.
Très bien, si tu es sûr de toi.
Tout sauf Serpentard.
Il vaut mieux. Gryffondor !
La célèbre scène du choix-pot dans Harry Potter à l'école des sorciers. Bonjour Mathilde Lévesque.
Bonjour.
Maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord, enseignante et chercheuse en littérature pour la jeunesse, présidente de l'AFROLOS. C'est quoi l'AFROLOS ?
C'est l'Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance.
Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de philosophie dans un lycée à Marseille et vous avez publié chez Ellipse un excellent essai Harry Potter à l'école de la philosophie. Bonjour Ben HPTS.
Bonjour.
Vous êtes un youtubeur passionné d'Harry Potter et vous publiez chez Larousse un guide de survie magique sous-titré Traverser l'adolescence grâce au pouvoir d'une saga symbolique. Alors avant de plonger dans les bienfaits de l'œuvre créée en 1997 par la Britannique J.K. Rowling, j'aimerais commencer avec vous Mathilde Lévesque, j'aimerais commencer par les grandes fonctions de la littérature de jeunesse. Alors depuis le Télémaque de Fénelon, écrit pour le jeune duc de Bourgogne en 1699, la littérature de jeunesse détient une fonction éducative.
Oui, elle la conserve toujours. C'est évident que la littérature pour la jeunesse a cette double nature depuis ses origines. Et la littérature de jeunesse actuelle, contemporaine, est l'héritière de cette double nature entre le plaire et l'instruction. Enfin, plaire et instruire.
Et la littérature pour la jeunesse a pour ambition de distraire les lecteurs, bien évidemment, mais également de contribuer à forger la personnalité du lecteur, du jeune lecteur, à lui transmettre des savoirs. Il ne faut pas oublier que ce sont des adultes qui s'adressent à des enfants et à des adolescents, et par conséquent, ces adultes transmettent des valeurs à la jeunesse.
Oui, et par cette double fonction à la fois éducative et récréative, la littérature de jeunesse transmet un certain nombre de valeurs. Alors bien sûr, les formes et les thématiques ont changé, il y a eu des moments d'innovation, de révolution, mais elle est toujours l'héritière de cette double nature, de cette conception d'une littérature, c'est ce qui fait sa particularité, et elle transmet des valeurs, que ce soit des valeurs morales, ça peut être des valeurs religieuses, maintenant ce sont peut-être des valeurs plutôt citoyennes.
Et c'est également évidemment une littérature d'évasion, une littérature de l'imaginaire.
Absolument, et c'est ce qui explique son succès. Si elle n'était que morale, moralisatrice, elle serait très ennuyeuse et serait tombée complètement dans l'oubli, n'intéresserait personne, ce qui n'est, je crois, pas le cas.
Gwenaëlle Boulay, dans la vraie vie, vous êtes rédactrice en chef de Pomme d'Api, grande spécialiste de littérature de jeunesse.
Bah, j'appartiens au groupe Bayard Presse, effectivement, qui publie des magazines comme J'aime lire, donc voilà, qui essaye de faire rentrer les enfants dans la littérature. Et moi, ce qui vraiment, je trouve, est le point commun à la littérature jeunesse aussi souvent, c'est quand même d'offrir aux enfants l'idée, et aux adolescents, l'idée que la vie est faite d'épreuves et qu'on va pouvoir surmonter ces épreuves. Alors, grâce aux amis, grâce à la force intérieure, grâce à ce qu'on va... Voilà, après, on a tout le panel des outils de la vie qui font pouvoir traverser les épreuves. Et voilà, l'objectif de la littérature jeunesse, c'est effectivement, on dit d'instruire, mais moi, j'ai l'impression aussi d'essayer d'offrir cette idée que dans la vie, on va pouvoir trouver des ressources, quel que soit son tempérament, quel que soit ce qu'on estime, même ses difficultés ou ses défauts, la timidité, le vilain petit canard, etc. On va pouvoir trouver les ressources pour vivre sa vie.
Mathilde Lévesque.
Oui, mais ça, évidemment, et ça passe aussi par le plaisir qu'on éprouve à la lecture, les qualités littéraires, esthétiques, graphiques, pour ce qui est des albums, la qualité des textes, qualité des images, qui portent aussi cette forme d'éducation, oui, qui est très large.
Alors, depuis un quart de siècle, Harry Potter fascine les jeunes lecteurs du monde entier, mais doit-on placer Harry Potter dans la catégorie de la littérature jeunesse? Il y a tant d'adultes qui lisent et relisent Harry Potter. Mathilde Lévesque.
Alors c'est une très bonne question. Harry Potter effectivement a montré que des adultes pouvaient lire, et en très grand nombre, un livre destiné à la jeunesse. Donc c'est de la littérature jeunesse au sens où ça a été écrit pour des enfants et des adolescents, c'est édité pour des enfants et des adolescents. Mais ce phénomène littéraire et éditorial a montré en fait la perméabilité de la littérature de jeunesse qui n'est pas neuve. À l'inverse, Robinson Crusoe n'a pas été écrit pour les enfants et il est très rapidement devenu un classique de la littérature jeunesse.
Ben HPTS, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce qu'Harry Potter fait partie de la littérature jeunesse ou ça déborde largement ce cadre-là?
Alors, je pense que ça dépasse ce cadre, mais que c'est quand même classé en littérature jeunesse et c'est pas quelque chose de mauvais que d'aller piocher un livre dans la littérature jeunesse. Je pense que la force aussi de la saga Harry Potter, c'est que ça s'adresse à tout un public, à tout âge. Et donc, du coup, derrière, s'il faut aller le chercher en littérature jeunesse, je pense pas que ce soit un frein. Et même au contraire, ça permet du coup aux jeunes de découvrir la lecture via Harry Potter, alors que s'il était dans un rayon un peu plus âgé, entre guillemets, peut-être que les jeunes y auraient moins accès aussi.
Marianne Chaillant, vaste tâche que je vous demande là, c'est de raconter Harry Potter pour ceux qui ne connaîtraient rien de cette histoire. Qui sont les grands personnages récurrents? Qu'est-ce que ça raconte au fond, Harry Potter?
Ah oui, mais alors, Ali, quelle tâche, effectivement. Eh bien, Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui découvre subitement, alors qu'il pensait être un orphelin et que la ville avait plutôt maltraité, il était élevé par son oncle et sa tante, extrêmement maltraitant à son égard, qu'il découvre qu'il est un sorcier. Il reçoit un jour une lettre qui lui apprend qu'il est un sorcier depuis toujours, il l'ignore, et il va pouvoir entrer dans cette merveilleuse école de sorcellerie qui est Poudlard, où il va rencontrer des professeurs extraordinaires, parmi eux Albus Dumbledore, le directeur de l'école de sorcellerie, mais aussi Minerva, la bien nommée. C'est Athéna Minerva McGonagall, et puis il va rencontrer toute une bande d'amis, lui qui a toujours été isolé et scellé, et voilà, et nous allons à ses côtés, nous-mêmes lecteurs. Et moi, je dois avouer, pour rejoindre le débat que vous venez d'avoir, que j'ai rencontré Harry Potter à l'âge adulte, il faut le dire, et je suis rentrée à ses côtés à Poudlard. Je n'avais pas 11 ans quand j'ai reçu ma lettre d'admission à Poudlard, j'étais bien plus âgée. Et je pense qu'on est des générations de lecteurs, et ça se dément pas, le temps passant, à rentrer chaque année à Poudlard avec émerveillement et à découvrir ce monde merveilleux que J.K. Rowling a construit.
Poudlard, c'est l'école des sorciers, et parmi les amis d'Harry Potter, il y a évidemment Hermione Granger, Ron Weasley, et puis Hagrid, le demi-géant. Ben HPTS, pourquoi Harry Potter a changé votre vie? Pourquoi êtes-vous si attaché à ces personnages qui sont devenus vos amis?
Alors en fait, j'ai découvert mon Harry Potter à une dizaine d'années, donc j'étais pas loin de l'âge de Harry quand il rentre à Poudlard, donc forcément ça aide encore plus à s'identifier à l'histoire. Et très vite du coup, j'ai été curieux de l'histoire, mais pas non plus complètement à fond dedans. C'était ma sœur qui m'avait fait découvrir, qui me lisait les livres au tout début, parce que quand on voit les gros pavés que c'est, des fois on est un peu découragé. Et puis après, c'est revenu au moment de mon entrée au collège, Et donc, je me suis remis dedans à fond, et c'était un échappatoire. Ça permettait vraiment de penser à autre chose, de se mettre dans un monde qui paraissait un peu parfait, même si parfois il est très dur. Il y avait quand même ce côté magique qui était hyper rassurant. Et après, de fil en aiguille, c'est resté. J'ai pu en faire mon métier, j'ai pu en faire des choses assez extraordinaires. Donc oui, pour moi, Harry Potter, c'est une grande histoire d'amour.
Le premier opus, Harry Potter à l'école des sorciers, m'a rappelé mon entrée en sixième, entre émerveillement et peur de se retrouver dans un univers nouveau et impressionnant. Comme Harry Potter, les élèves de sixième vont devoir s'adapter à un nouvel environnement et se faire une place.
Ouais, c'est en tout cas le ressenti que j'ai.
Vous le racontez dans votre livre. Hein.
C'est ça. Je pense que c'est la vision que j'en ai en tout cas, et c'est pour ça aussi qu'on s'identifie très facilement à la saga Harry Potter, parce qu'il y a tellement de similarités au monde réel, mais en fait on a juste rajouté de la magie qui rajoute vraiment le côté incroyable.
Gonelle Boulet.
Oui, ce qui est fantastique dans Harry Potter, c'est ça, c'est que ça se sert de tous les ingrédients du quotidien, ça rejoint les émotions au plus profond de ce que vit un petit garçon de 8-9 ans, je crois, quand il rentre, jusqu'à son adolescence. Donc après, il va rencontrer les émois aussi des premiers amours, il va rencontrer tout ce qu'un vraiment un enfant, un adolescent va rencontrer, sauf que effectivement, c'est magnifié par cet univers, et puis c'est densifié par le fait qu'il y a des aventures incroyables. Mais on y retrouve la force pour moi d'Harry Potter, bien sûr, c'est l'univers, mais c'est la capacité qu'elle a eue à rejoindre nos émotions et les émotions de l'enfance et de l'adolescence.
Et oui, moi je me souviens de la scène où Harry, Ron, Hermione découvrent Poudlard, c'est une scène assez extraordinaire, hein, Ben HPTS.
Oui, je la trouve aussi assez incroyable, et d'autant plus quand on a commencé en lisant les livres, on a du coup une image qu'on s'est faite avec la description que l'autrice a pu faire, et après derrière on découvre du coup avec le premier film comment ça a été retranscrit au cinéma, et c'est de nouveau un moment magique assez incroyable. Ouais.
Mathilde Lévesque.
Oui, c'est très intéressant cette question de l'entrée en sixième. En fait, Harry Potter se rejoint la tradition une tradition littéraire beaucoup plus ancienne que le livre, qui est celle du roman scolaire, qui est très connue dans la littérature anglo-saxonne en particulier. Le génie, sans doute, un des points géniaux de J.K. Rowling, c'est d'avoir inventé le fait que le personnage grandisse et que le livre soit aussi de plus en plus complexe avec le lecteur. Et ce qui est intéressant, ce que vous disiez sur l'entrée en sixième, c'est qu'on a quand même beaucoup de témoignages d'enfants et d'adolescents qui soit restent des lecteurs ou qui redécouvrent la lecture en dépit de l'école, si j'ose dire, grâce à Harry Potter, qui ne fait pas partie des listes officielles de l'éducation nationale. On peut s'interroger sur cette absence. Voilà, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le décrochage de la lecture à l'entrée au collège, et Harry Potter vient combler ce problème.
Bonjour Brieux.
Bonjour.
Tu as 14 ans, tu effectues ton stage de 3e au sein de notre équipe. Alors quand tu es arrivé lundi, tu portais une écharpe aux couleurs de l'une des maisons de Poudlard, Pouf Souffle. Donc tu es passionné d'Harry Potter. Qu'est-ce qui te passionne profondément dans cette saga ?
Eh bien déjà, on peut s'identifier à tous les personnages. Par exemple, Harry va être courageux, donc si on a un peu de courage, et ben on peut s'identifier à lui. En fait, le trio est très complémentaire, entre Ron qui va faire rigoler, Harry qui va être assez sûr de lui, et Hermione, bon, est-ce qu'on a besoin d'en parler, qui va être intelligente. Bon, c'est un peu subjectif, mais on va parler comme ça. Ce qui me passionne, c'est vraiment qu'on peut s'identifier à ces trois personnages. Par exemple, je peux avoir une de ces personnalités. Par exemple, il y a des moments où je suis assez sûr de moi, donc on peut s'identifier à Harry. Et ensuite, au niveau des livres, c'est que c'est un peu intemporel. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais être un moldu et vous des sorciers.
Les moldus, rappelle pour ceux qui ne connaissent pas.
Les moldus, ce sont les non-sorciers.
D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, quel est le personnage qui te parle le plus dans la saga que tu as terminé, que tu as achevé hein, de lire?
Oui, bien sûr.
Quel est celui, au fond, tu te sens vraiment très proche de quel personnage?
Eh bien, j'aime beaucoup Ron et Cédric Diggory. Bon voilà, Pouf Souffle, je suis Pouf Souffle.
Alors c'est quoi? Parce qu'il y a quatre maisons hein, dans Harry Potter. Hein, il y a Pouf Souffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor, à laquelle appartient notre jeune sorcier. Pourquoi t'as choisi Pouf Souffle? C'est quoi les valeurs de Pouf Souffle qui te parlent?
Ils disent la gentillesse, et mes parents disent que je suis gentil.
voilà. C'est une très bonne qualité. Sur Marianne Chaillant, sur ces grandes maisons, Pouf Souffle, Serre d'Aigle, Serpentard et Gryffondor, qui permet une identification très forte du lecteur, hein, Marianne Chaillant.
Oui, mais qui nous donne aussi d'emblée une leçon de philosophie. Dans l'extrait que vous avez diffusé au départ, là, la fameuse cérémonie de répartition, le choix-pot doit évaluer les qualités intrinsèques des élèves qui se présentent devant lui et qu'il doit répartir dans l'une des maisons, selon effectivement un certain nombre de qualités. Mais tous les lecteurs de Harry Potter savent bien qu'au fond, le choix-pot fait ce que l'élève souhaite profondément. Et là, J.K. Rowling, d'emblée, voyez, double un récit qu'on pourrait prendre comme ça, voilà, de manière un peu superficielle, d'une réflexion philosophique profonde. C'est-à-dire qu'elle nous dit bien, oui, nous avons des aptitudes, oui, nous avons des caractéristiques, mais finalement, ce sont nos choix qui révèlent ce que nous sommes vraiment et pas nos aptitudes. Elle développe toute une philosophie de la liberté, d'inspiration sartrienne, hein, où elle nous montre que effectivement, on peut pas choisir ce qui nous est donné. Certains naissent avec telle aptitude ou telle autre, mais nous pouvons choisir ce que nous ferons de ce qui nous est donné. Et ainsi, Harry, qui aurait pu aussi bien se retrouver à Serpentard, demande au choix-pot de le mettre à Gryffondor. Et donc, on a vraiment plusieurs niveaux de lecture de cette scène. Le côté émerveillement que vous rappeliez, Ali, effectivement, on assiste à cette scène en rêvant comme un enfant, effectivement, qui rentre dans un lieu merveilleux. Mais on a d'emblée, tout de suite, une leçon de philosophie. Vous n'êtes pas réduit à une identité, vous n'êtes pas réduit à une essence. Il vous appartient de définir qui vous êtes. Il vous appartient d'écrire votre existence. Et c'est très fort.
Ben HPTS, vous acquiescez.
Oh, c'est beau. C'est très bien dit. J'aurais pas formulé mieux.
Allez, dans quelques instants, vous verrez pourquoi Harry Potter peut nous aider, peut aider les enfants et les adolescents à accepter notre finitude. En attendant, on écoute Jacques Dutronc, l'aventurier.
Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à Dole. J'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie, et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé.
Jacques Dutronc, l'aventurier.
J'ai 8 ans et je suis une des plus passionnées d'Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
J'ai de la magie et j'aime Ron.
Ali Rebéi.
En fait, j'adore tout.
Et comme dirait le professeur Lecas, on dirait de la magie.
Sur France Inter.
10h25, comment Harry Potter peut aider les enfants et les adolescents à grandir? Standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Alors Jeanne, 20 ans, à propos du personnage d'Hagrid, demi-géant protecteur d'Harry Potter et de ses amis, nous dit « Hagrid m'a permis de croire à la possibilité de trouver un ami fiable, désintéressé et qui vous aime de façon inconditionnelle. Mathilde Lévesque, professeure de littérature et chercheuse en littérature jeunesse. Pourquoi Hagrid suscite tant de tendresse chez des millions de lecteurs ?
Alors Hagrid, effectivement, c'est cet amour inconditionnel, c'est à la fois ce géant, et en même temps il est très enfant, puisqu'on apprend dans la saga qu'il n'a pas qu'il n'a pas terminé son cursus à Poudlard, donc il est à la fois un intermédiaire entre le monde des monstres et le monde des humains, entre les adultes et les enfants. Il est proche de la nature, il vit de façon aussi assez simple et frugale. Il est à la limite du domaine, puisqu'il est dans sa cabane en bordure de la forêt interdite. Donc c'est un personnage rassurant et qui est vraiment à cette frontière de l'enfance qui intéresse beaucoup, ce qu'on disait sur l'éducation, sur devenir différent, autre.
Gwenaëlle Boulay.
Ah ouais, moi, Hagrid aussi m'évoque un peu la marginalité. C'est un personnage qui est un petit peu marginal. Il fait un peu aussi des bêtises. Enfin, il a des créatures magiques pas tout à fait déclarées, toujours. Un petit peu clandestines. Et donc, il a un côté presque parfois un petit peu simple, hein. Et donc, pour moi, quand vous dites, il est effectivement ce point de transition entre le monde de l'enfance et de l'adulte, c'est il a cette complicité parce qu'il fait un peu des bêtises. Il est pas toujours dans les règles. Et puis, en même temps, il a effectivement ce bon cœur de l'enfance, quoi.
Ben HPTS, l'auteur de Guide de survie magique.
Je pense qu'il est aussi hyper présent avec les lecteurs et ceux qui vont regarder les films parce qu'il accompagne Harry quand on apprend que du coup il se retrouve seul. C'est lui qui va le déposer devant la famille adoptive. C'est lui qui va ensuite l'accompagner sur le chemin de traverse pour faire ses courses pour Poudlard. C'est lui qui lui explique un petit peu le monde magique aussi. Donc c'est un repère aussi, je pense, pour les lecteurs qui s'identifient beaucoup à Harry comme la figure rassurante.
Brieux, 14 ans, grand amateur d'Harry Potter.
Moi, Hagrid m'évoque un peu le BGG, le bon gros géant de Roald Dahl. Ouais. Le grand, sympathique, gentil. Ouais. Et puis Hagrid, ça m'évoque aussi ma mère, prof de SVT, qui est émerveillée devant toutes les petites choses de la nature, un peu comme Hagrid, les bébés dragons. Et donc parfois en baladant, regarde. Et donc Hagrid, il s'émerveille devant son dragon, son griffon. Et toi, t'es là, tu ne comprends pas comme Harry.
Ça va faire plaisir à ta mère d'avoir comparé à Hagrid. Quel est votre personnage préféré d'Harry Potter, Ben HPTS?
Alors moi j'aime bien les méchants, donc j'aime bien Bellatrix Lestrange. Je trouve qu'elle a un
c'est
côté tellement
en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est une qui est dans l'armée de Voldemort, le méchant pour le faire hyper bref, et c'est la plus tarée de la saga Harry Potter, donc interprétée par l'excellente Helena Bonham Carter. Ouais. Donc je pense que il y a encore une autre dimension quand on regarde les films grâce à l'actrice. Ouais. Et sinon j'aime bien aussi les personnages gentils comme Hermione quand même.
Mathilde Lévesque.
Alors, moi, j'ai un petit peu changé. Hermione faisait sans doute partie de mes personnages préférés quand j'ai commencé à lire Harry Potter. Et je dois dire un petit peu, donc comme Ben HPTS, maintenant, je crois que mon personnage préféré, c'est le professeur Rogue, professeur Snape, professeur de potions, qui est à la fois méchant, gentil. Je ne veux pas tout dévoiler non plus pour les gens qui ne l'auraient pas lu. Et aussi, en raison de son interprétation dans les films par Alan Rickman, qui est un acteur formidable.
Marianne Chaillon, professeur de philosophie.
Oui, je reviens à Hagrid. Il me semble qu'on a oublié peut-être de donner une des raisons pour lesquelles le public est si attaché à ce personnage, c'est qu'il est victime d'une injustice. Et par deux fois, il me semble. S'il n'a pas terminé son cursus à Poudlard, c'est qu'on l'a accusé à tort, je parle sur le contrôle de tous les autres invités, mais on l'a accusé à tort d'avoir ouvert la chambre des secrets. Première injustice terrible. Quand enfin, après des années, il parvient à obtenir un poste de professeur, une deuxième injustice conduit à son licenciement en quelque sorte, après cette séance de vol raté, après laquelle Malfoy fait porte plainte contre lui. C'est vraiment un être extrêmement tendre et bon qui se retrouve marginalisé aussi parce qu'il est victime d'injustice. Et ça, c'est une bonne leçon que nous donne J.K. Rowling, cette compassion à l'égard de celui qui est injustement condamné. Pour le personnage préféré, Ali, mais quelles difficultés, ils sont tellement merveilleux, tous, les uns plus les uns que les autres.
Moi, j'aime beaucoup
le professeur Lupin.
Ah oui.
Le professeur Lupin, lui aussi, c'est quelqu'un qui porte un secret, secret, le secret d'une différence, qui pense-t-il le conduit à devoir vivre caché, et J.K. Rowling nous donne dans la saga, en tout cas, dans la saga, cette leçon de dire, eh bien, que la différence n'est pas quelque chose de honteux, et qu'il faut aimer ce que l'on est, malgré les différences que l'on peut avoir.
Moi, j'aime beaucoup la professeure de Poudlard, de Minerva McGonagall, qui me rappelle les professeurs un peu stricts, bienveillants, et juste, que j'ai pu croiser au cours de ma scolarité. Tiens, nous accueillons une professeure, Marie-Christine, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeure de lettres en lycée. Oui. Que vous a apporté Harry Potter lorsque vous étiez jeune?
À peu près tout, puisque je suis devenue professeure de lettres grâce à Harry Potter.
C'est vrai?
Bah oui.
Racontez-nous pourquoi.
Alors, en fait, pas du tout lectrice, et puis même en difficulté de lecture à l'école primaire. Et puis j'arrive en sixième et ma professeure de français, rentrant du salon du livre, me met entre les mains Harry Potter à l'école des sorciers, peu connu à l'époque. Et puis, ben de tome en tome, durant toute mon adolescence, je deviens une dévoreuse de livres par Harry Potter. Et donc finalement, j'ai décidé de m'en faire mon métier.
Et de quelle façon Harry Potter vous a aidé quand vous étiez enfant, adolescente, quand vous découvrez cette saga
Alors, j'appartiens peut-être à une des premières générations de lecteurs, donc les tomes sont arrivés en France au fur et à mesure des années. Donc finalement, Harry Potter a grandi, j'ai grandi avec lui. Donc quand vous parliez très justement au tout début de l'émission d'un Harry Potter qui devient grand, qui s'affranchit aussi de son enfance par sa générosité dans le dernier tome, bah, finalement ça a correspondu à ce passage vers l'âge adulte.
Gwenaëlle Boulay.
Gwenaëlle
Boulay voulait intervenir.
Oui, non, moi c'était juste sur le rapport à la lecture, parce qu'il y a des gens chez qui il y a eu cet effet magique d'Harry Potter, le fameux j'aimais pas lire, et puis il y a eu Harry Potter, voilà, et c'est formidable. Je veux juste dire aux parents, il y a Harry Potter, ils font 300-400 pages, 800 pages, je crois le dernier, quelque chose comme ça, enfin 650, je sais plus, 700 pages. C'est quand même des gros pavés qui ont des structures littéraires qui sont pas si simples que ça. Donc juste vous dire que si votre enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans n'arrive pas à lire en entier Harry Potter, ce n'est pas grave. Donc prenons le temps aussi de les lire avec eux. Et oui, ça prend du temps. Et oui, ça prend des soirées entières. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu un peu la référence Harry Potter que tout enfant doit avoir lu à référence. C'est pas si facile que ça à lire.
Voilà. Merci de nous déculpabiliser.
Toujours.
Mathilde Lévesque.
Oui, c'est ce témoignage est vraiment très intéressant de cet effet de génération où maintenant les premiers lecteurs de Harry Potter sont des trentenaires qui sont devenus enseignants, enseignantes, écrivains aussi pour la jeunesse parfois, éditeurs ou éditrices, des bibliothécaires. Et il y a un effet de transmission aussi très fort. Je trouve que c'est un témoignage très, très intéressant.
Merci beaucoup Marie-Christine de nous avoir appelé. Brieux, une petite réaction?
Je suis d'accord avec Marie-Christine sur le fait que certains sont devenus enseignantes. J'en ai la preuve avec quelqu'un de ma famille. Et il y a aussi l'effet de si tu n'aimes pas Harry Potter, tu es renié de ta famille. Et bon, si, t'es un peu obligé d'aimer, mais bon, après, bon. Voilà quoi.
Oh, tu fais de la magie. Voyons ça. Soleil, jonquille et mimosa. Que ce gros vilain rat en jaune soit colorié de la tête aux pieds. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Ça a marché à chaque fois. Par exemple... Oculus Reparo. C'est mieux comme ça, non? Nom d'une chouette. Tu es Harry Potter? Je suis Hermione Granger. Et toi, tu es...
Moi, Ron Weasley.
Enchanté. Vous devriez mettre vos robes de sorcier. On ne va pas tarder à arriver. Au fait, je te signale que tu as une tache sur le nez. Tu le savais? Juste là.
Un extrait d'Harry Potter et la Coupe de Feu. J'aimerais qu'on revienne sur la question de l'amitié dans Harry Potter. Tout au long de la saga, la question de l'amitié est centrale, fondamentale. Ben HPTS, l'amitié entre Hermione Granger et Harry Potter ne cesse de vous toucher.
Oui, j'aime beaucoup leur amitié, je la trouve sincère et je trouve qu'ils sont là chacun avec leurs qualités, leurs défauts pour aider l'autre quand l'autre en a besoin. Et je trouve qu'ils ont une très très belle amitié et que de manière générale dans la saga Harry Potter, il y a beaucoup de notions autour de l'amitié et même parfois des amitiés, on est obligé de s'éloigner de certaines personnes. On on est obligé de, voilà, de ne plus avoir contact avec d'autres, parfois dans la vie, et parfois il y en a qui reviennent, parfois il y en a qui sont définitivement terminés, et je trouve que ça apprend beaucoup de choses sur l'amitié et sur le fait de soutenir les personnes qui sont proches de nous, et à quel point des amis peuvent vraiment faire partie de la famille aussi.
Brieux, sur la question de l'amitié,
Est-ce
que cette amitié entre Hermione et Harry Potter, elle te touche ? Est-ce que
oui, elle me touche parce qu'ils sont à la fois très différents et très proches. Les qualités de l'un sont les défauts de l'autre et inversement, ils se complètent et ne forment qu'un. En plus, on peut rajouter Ron avec l'esprit un peu rigolo. Enfin, en tout cas, c'est ce que je retiens de lui. Et donc, du coup, ça forme en fait une personne avec toutes les qualités qu'il faut. Donc, c'est très humain.
Et nous accueillons Mathéo. Bienvenue, Mathéo.
Bonjour.
Tu as 12 ans. Harry Potter, c'est l'un des premiers livres que tu aies lu dans ta vie.
Oui, c'est le premier vrai livre que j'ai lu.
Ouais.
Le vrai roman.
Alors, qu'est-ce que t'apporte la lecture d'Harry Potter ? Explique-nous un petit peu.
Ça m'a donné envie de d'écrire des romans après parce que je trouve que c'est incroyable un peu les trucs.
Quels sont les thèmes que tu trouves incroyables dans Harry Potter ? Qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette saga ?
La magie, c'est des trucs un peu, qui peuvent pas vraiment arriver en vrai. Du coup, on est dans sa bulle un peu.
Mmh. Et est-ce que toi, ça a pu t'aider dans ta vie, cette lecture de d'Harry Potter, pour plusieurs raisons, hein?
Maintenant, j'adore lire des romans.
Mm-hmm.
Et ça m'a donné envie de lire d'autres romans et j'ai toujours des livres à lire. Mais beaucoup des livres de fantasy.
Mm. Alors, Mathéo, tu me promets une chose, le jour où tu écris ton premier roman, tu me l'envoies dédicacé. À France Inter, hein.
Pas de problème.
Merci Mathéo d'être intervenu dans Grand Main Vous Fasse. Et nous accueillons une habituée de cette émission, Christine Appelé-Douel, bienvenue.
Bonjour Alain.
Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, l'autrice de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Alors on vient de l'entendre avec Mathéo, parmi les bienfaits de Harry Potter, il y a la lecture, tout simplement, le fait de lire.
Oui,
plaisir de la lecture.
Exactement, le plaisir de la lecture, la découverte de la littérature, parce que tout à l'heure il a été dit une chose importante, c'est que Harry Potter a une construction complexe, un vocabulaire riche, et que ce n'est pas une littérature au rabais du tout, contrairement à ce que certains auraient pu penser. Voilà. C'est sans doute aussi pourquoi d'ailleurs les adultes aiment tellement lire Harry Potter, je pense. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est une vraie ouverture à la littérature, et ma fille, Alice, pour ne pas la nommer, je ne sais pas si elle écoute en ce moment, était une passionnée absolument d'Harry Potter, et elle m'a dit hier qu'en effet, c'était Harry Potter qui l'avait lancé dans la vraie, entre guillemets, littérature, c'est-à-dire les récits complexes, élaborés, construits, et avec un univers d'une richesse particulière. Parce que Harry Potter, c'est vraiment un univers complexe, riche, et plein de symboles. Voilà.
Et d'un point de vue...
C'est que ça ne colle pas au réalisme, et c'est ce qui permet l'envoler de l'entrée dans la littérature et dans l'imaginaire.
Et d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qu'a apporté la lecture d'Harry Potter à votre fille, puisque vous la citez ?
Alors, je pense, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit, elle n'est pas sûre que ça lui a apporté beaucoup. Je n'en suis pas certaine. Moi, je pense que le fait de lire l'histoire d'un petit garçon qui, par deux fois, est confronté à la mort, c'est-à-dire la mort de ses parents quand il est enfant, puis à sa propre finitude quand il est face à face avec Voldemort, sont des choses extrêmement structurantes et importantes. Et puis il y a autre chose, c'est un enfant qui a été maltraité. Voilà. Et c'est un enfant qui trouve le ressort grâce à Poudlard, grâce aux figures tutélaires des deux directeurs de Poudlard que vous avez nommés, Dumbledore et Minerva, l'a bien nommé. Arrive à retrouver, à reprendre pied. Et ça, c'est une ressource pour tous les enfants. évidemment qu'ils aient été maltraités ou pas maltraités, heureusement. Hein. Et ça permet l'élaboration de quelque chose, vraiment. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik, il avait dit un truc formidable, il a dit, non pas à propos d'Harry Potter, mais d'une manière plus générale, tout traumatisme est supportable dans la mesure où le sujet peut l'élaborer dans un récit. Et c'est exactement ce que fait Harry Potter.
Et c'est vrai, que Harry Potter est un orphelin maltraité par son voilà. oncle et sa tante, et ça parle Ben HPTS à de nombreux lecteurs. C'est un refuge Harry Potter. Quand
si je peux me permettre de rebondir un tout petit peu, je pense qu'il n'y a pas de vraie littérature. Je pense qu'il y a plein de différents genres de littérature, voilà. mais que la littérature Harry Potter est une littérature comme une autre. Après, oui, ça permet surtout d'aider beaucoup de personnes qui se reconnaissent soit dans les personnages ou soit qui vont s'en servir comme d'un refuge et qui vont du coup vivre avec ces personnages qui vont se libérer peut-être de certaines choses, ou alors qui vont voir dans ces personnages le fait que c'est normal d'être comme ça et que c'est ok en fait, et que c'est pas grave d'être différent.
Vous l'expliquez dans votre livre, vous avez été harcelé parfois au collège et au lycée, et la lecture d'Harry Potter vous a aidé.
Oui, la lecture m'a beaucoup aidé, que ce soit dans le cadre de harcèlement dans la vraie vie, au collège, au lycée, ou aussi avec du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui un nouveau fléau. Et moi, ça a été vraiment un refuge parce que c'était la sécurité, c'était un endroit dans lequel je me sentais vraiment safe, vraiment. Je me disais, là, il peut rien m'arriver, je peux être tranquille chez moi. Et ça me permettait de partager avec de nouvelles personnes qui étaient donc aussi avec les mêmes passions. Donc, on ne jugeait pas, en fait.
Il est 10h41 et il est déjà l'heure de retrouver la chronique « Ma vie de parent » de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors aujourd'hui, Gwenaëlle Boulay, vous avez décidé de vous attaquer à un autre monde magique.
Et oui, en fait, j'aurais vraiment pu vous parler des heures d'Harry Potter, parce que je suis une véritable fan depuis les débuts de la saga. Moi, j'étais déjà adulte. J'aurais ainsi pu partager avec vous mon opinion sur le fait qu'au fond, je pense qu'il y a toujours eu une histoire d'amour secrète entre Dumbledore et le professeur McGonagall. Mais bon, en bonne professionnelle de la cause parentale, j'ai décidé de me recentrer. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à une catégorie très précise de parents qui, en ce moment, méritent toute notre attention, voire nos encouragements et notre compassion. Je parle des parents d'élèves de classe de terminale qui, depuis le 20 janvier, sont entrés dans le monde magique de Parcoursup.
Alors, c'est quoi Parcoursup ?
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Parcoursup est la plateforme nationale sur laquelle les élèves de terminale entrent leurs vœux pour leurs études supérieures. Dans cet univers, les jeunes ont jusqu'au 11 mars pour faire des vœux et décider, ni plus ni moins, de leur avenir. Et autant dire que dans beaucoup de familles, cet épisode est source de pas mal de tensions et d'angoisses.
Et pourquoi donc ?
Bah, disons qu'il existe une première catégorie d'ados, celle dont nous avons tous rêvé en tant que parents, mais excessivement rare, à base d'enfants premiers de la classe qui a développé une passion pour la trigonométrie, les sciences politiques, les langues orientales ou les stégosaures depuis l'âge de 8 ans, et pour qui la question de l'orientation n'est donc qu'une simple validation de le parcours. Alors hop, un petit coup sur le site de l'UNICEF, hop hop, les 10 vœux sont remplis en 3 coups de cuillère à peau, hop, il ou elle est pris dans l'école de ses rêves en fin d'année, finger in the nose. Alors, chers parents qui m'écoutez, oui, ce profil existe, mais pas chez vous. C'est comme ça, pas la peine de vous apitoyer sur votre sort. Alors, au passage, petit conseil pour les chanceux pour qui Parcoursup passe crème, là, faites profil bas pendant quelques semaines si vous voulez pas faire trop d'ennemis.
Car en général, ça ressemble plutôt à quoi cet épisode de Parcoursup ?
En général, vous qui avez appris dans la vie adulte que l'anticipation est une alliée en or, vous avez déjà tenté d'aborder la question de l'orientation plusieurs dizaines de fois avec votre ado, sans grand succès. En seconde par exemple, quand il a fallu choisir une option. Et puis en fin de première, quand il a fallu renoncer à une option. Vous avez régulièrement tenté de sages « Et sinon, t'as regardé un peu les études qui te plairaient ? T'as une idée de ce qui te brancherait après le bac ? Tu sais un peu dans quoi tu verrais pour travailler ? Si t'as besoin d'aide hein, pour trouver des renseignements, n'hésite pas, hein, on peut t'aider. » Mais depuis des mois, vous êtes heurté à de vagues borborygmes du type « C'est bon, on prend déjà la tête avec ça au lycée. C'est bon, arrêtez de me stresser. » Ou l'éternel « T'inquiète, je gère. » Et alors, effectivement, gère-t-il ?
Hein ? Et oui, c'est la question que je me pose.
Faut jamais que je mette mes relances en bas de page. En
exactement.
Fait, hein, eh ben, écoutez, ça dépend. Côté pile, la bonne surprise. Il ou elle a en effet géré globalement son affaire et il vous surprend à avoir en effet quelques idées personnelles ajustées sur la question. Reste à savoir si ce que vous aviez projeté sur lui ou sur elle n'en prend pas un sacré coup. Mais là, je dirais, à vous de faire le boulot. N'oubliez pas qu'il s'agit de son avenir et non du vôtre. Côté face, vous avez peut-être un peu trop transmis votre progéniture, votre passion pour Harry Potter et l'imaginaire en général, et vous vous retrouvez avec une scène du type « Alors chérie, c'est quoi ce fameux premier choix que tu gardes secret depuis des mois ?» Bon allez, je vous le dis, c'est Poudlard. Comment ça ? Ben Poudlard, la grande école de sorcellerie. Même j'ai super bien bossé mon dossier, regardez. J'ai mis des sous-vœux, en 1 j'ai mis Gryffondor, en 2 Serre-d'Aigle, en 3 Poufsouffle, en 4 Serpentard. Bon bah après j'ai mis quelques écoles de commerce moldues, histoire de remplir le truc, mais franchement, je pense que j'ai toutes mes chances pour Gryffondor. Ok, regardez sur les réseaux, j'ai même cartonné, je suis 5e en défense contre les forces du mal, niveau sortilège, j'assure grave. Franchement, Parcoursup, je gère. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire que si vous pensiez être les plus mauvais élèves de Parcoursup, je vous dis non, rassurez-vous, il y a toujours pire ailleurs. Et n'oubliez pas, comme tout ne se joue pas avant 6 ans, tout ne se joue pas non plus sur Parcoursup, donc haut les cœurs et keep calme.
Ben HPTS, vous tiquez un peu sur l'éventuelle romance entre Dumbledore et Minerva McGonagall.
Oui, parce que J.K. Rowling avait confirmé plus tard que Dumbledore était gay, donc ça paraît
un
peu compliqué.
Ah bon ? C'est pas vrai. Mais il y a un peu de bisexuel, non ?
Alors, Ma vie de parent a podcasté sur les applis France Inter et Radio France. Dans quelques instants, on s'intéresse à l'un des thèmes centraux de Harry Potter, la finitude humaine et la question de la perte. En attendant, on écoute Rover, Burning Flag.
I haven't seen you for days now, girl. Winter is striking hard. Made my way to the earth, I'll stay. I feel like open sky. Could we ever believe?
J'aimais beaucoup Sarah Gonel Boulay.
Ah ouais, j'aime beaucoup Rover.
Rover, Burning Flag.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi sur France Inter.
10h49, comment Harry Potter peut aider les enfants et les adolescents? Standard ouvert au 01 45 24 7000. Alors, quels sont les grands thèmes fondamentaux qui peuvent toucher les enfants et les ados? Mathilde Lévesque, je rappelle que vous êtes professeure de littérature et chercheuse en littérature jeunesse.
Alors, on a parlé beaucoup de l'amitié tout à l'heure, mais rappelons quand même que Harry Potter, ça se passe essentiellement dans une école et que le savoir est au centre aussi de ces romans, de cette saga et au cœur des romans. Et je disais tout à l'heure que le livre n'est pas présent dans les listes officielles de l'éducation nationale, mais ce qui n'empêche pas beaucoup d'enseignants, professeurs des écoles ou professeurs de lettres de l'utiliser en classe. Je sais qu'il y a énormément de documents faits par des enseignants qui sont disponibles et qui sont en ligne pour transformer sa classe avec les quatre maisons dont on a parlé, pour organiser des cours de sport avec le Quidditch.
Le Quidditch,
le sport national et international de l'univers des sorciers, qui est un mélange de... Alors, c'est très, très difficile à décrire, peut-être.
Ben HPT,
si on simplifie le truc, on a trois balles, au moins, parfois plus, ouais. Et on essaye d'attraper le vif d'or, ça c'est Harry et Drago en général qui se bataillent entre Serpentard et Gryffondor.
Et on vole sur des balais.
Et on vole sur des balais, il y a des gardiens de but, enfin bref, on a un truc qui ressemble un peu à du foot, mais pas pareil.
Voilà, donc Harry Potter peut être vraiment présent dans l'univers scolaire, dans les apprentissages, et il y a des expériences qui ont été faites. On a une étudiante, par exemple, qui dans sa classe avait fait cette expérience dans une classe de CE2, et l'un des élèves qui posait des problèmes de troubles de comportement, qui n'était pas lecteur, se promenait avec, contre lui, le roman, le livre en tant qu'objet, comme un talisman, et faisait qu'il ne décrochait pas de l'école.
Ben HPTS, sur les grands thèmes de la saga Harry Potter qui vous touchent, qui vous ont touché quand vous étiez adolescent, préadolescent.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup autour de la tolérance et de l'acceptation, et aussi il y a des sujets un petit peu plus difficiles comme la mort, et beaucoup voilà, Harry est confronté, on le disait tout à l'heure, à deux morts, mais un petit peu plus en réalité, hein. Il voit des amis mourir, de la famille mourir, il voit beaucoup de choses tragiques, et ça confronte aussi les jeunes qui découvrent ça à la réalité à laquelle ils vont être confrontés aussi un jour.
Tiens, écoutons justement Harry Potter face au maléfique Voldemort.
Oh, un si beau garçon.
Ne le touchez pas !
Harry, oh, j'avais presque oublié que tu étais là, au-dessus des restes de mon père. Oui, je ne te présente pas, car il paraît que tu es presque aussi célèbre que moi maintenant. Le garçon qui a survécu. Ta légende est bâtie sur des mensonges, Harry. Dois-je révéler ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, il y a 13 ans? Dois-je divulguer comment, en vérité, j'ai perdu mes pouvoirs? C'était l'amour. Car voyez-vous, quand la douce Lily Potter s'est sacrifiée pour sauver son fils unique, elle lui a assuré la meilleure des protections. Je ne pouvais le toucher. C'est de la vieille magie. J'aurais dû m'en douter. Mais ça ne tient rien. Ça ne tient rien. Les choses ont changé.
Et je peux te toucher. Maintenant.
Extrait d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Tout à l'heure, nous avons écouté Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, Marianne Chaillant, je rappelle que vous êtes professeure de philosophie. J'aimerais qu'on aborde l'un des grands thèmes de cette saga. C'est la question de notre finitude humaine. Harry Potter est orphelin, il a une conscience aiguë de la mort et de la perte, c'est un survivant, il est celui qui a échappé à la mort, et la cicatrice sur son front témoigne de ce miracle. Hein.
Oui, c'est vrai. Dans le livre que j'ai consacré à la saga de J.K. Rowling, d'abord j'ai recensé tous les éléments de philosophie classique qu'on pouvait y trouver, et puis après je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas une philosophie spécifique, une problématique spécifique à Harry Potter? Et il m'a semblé que c'était la question du rapport à la mort, du rapport à la finitude. Comment accepter la mort qui vient? Et quand je me suis donné ce fil conducteur, alors toute la saga s'est ordonnée et on peut voir d'un côté un certain nombre de figures du refus de la finitude, de personnes qui n'acceptent pas l'idée qu'un jour il faille mourir. Ça commence par Nicolas Flamel qui invente cette pierre.
Pierre philosophale.
Cette pierre philosophale qui permet de ne pas mourir. C'est aussi les fantômes de Poudlard qui sont toujours là parce qu'ils ont refusé d'aller plus loin quand ils sont morts. C'est Mimi Géniard. Pourquoi gêne Mimi Géniard? Parce qu'elle n'est pas contente d'être morte. C'est aussi Dumbledore, lorsqu'il passe à sa main la bague de résurrection pour revoir sa sœur disparue, et évidemment c'est Voldemort, qui devient Voldemort, non pas par une méchanceté profonde. En fait, Voldemort, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est un peu Anakin Skywalker, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse complètement, totalement l'idée d'un jour devoir disparaître, et qui donc va aller très loin dans la magie noire pour repousser la mort. Et face à ces figures de la finitude, eh bien en fait, il y en a une seule en contrepoint. C'est Harry Potter. Harry, lui, contrairement à Voldemort, dont, par ailleurs, il est le cousin éloigné, ce qui donne à cette saga un aspect de tragédie grecque, Harry, lui, va choisir un autre rapport à l'existence et il va cheminer progressivement dans une sorte d'acceptation de la perte. Il va perdre, évidemment, il a perdu ses parents, comme Voldemort, hein. Il va perdre son parrain, Sirius, il va perdre un ami, Cédric, il va perdre même la première personne qu'il a aimée, Cho, qui va rompre avec lui. Et donc, il aime au risque de la blessure, il va perdre Dumbledore, il va perdre Dobby, il accepte même de perdre sa propre vie lorsqu'il se présente dans la forêt interdite face à Voldemort. En fait, Harry, c'est celui qui, progressivement, de livre en livre, va accepter que l'existence est faite aussi de cette nécessité de la perte. Et nous cheminons avec lui, hein. Nous apprenons avec lui que nous devons accepter la mort. Et d'ailleurs, à la fin de la saga, il devient le maître de la mort. Alors c'est dit dans le lexique magique de J.K. Rowling, hein, il devient maître de la mort parce qu'il possède trois objets, les reliques, mais il devient maître de la mort pas simplement parce qu'il possède ces objets, mais parce qu'il ne la redoute plus, contrairement à Voldemort. Et c'est ça, je crois, la grande leçon, parmi une des grandes leçons que nous donne J.K. Rowling.
Et je cite J.K. Rowling, dans Harry Potter et les reliques de la mort, Harry avait finalement compris qu'il n'était pas censé survivre, sa tâche consistait à marcher calmement vers les bras accueillants de la mort. Alors sur ce point, nous sommes tous des Harry Potter qui marchons calmement vers la mort. Alors, un peu d'espoir tout de même en cette fin d'émission, Marianne Chaillant. Même si l'étoffe de la vie est tissée du fil de la souffrance, de la finitude, il ne faut pas oublier le fil de l'amour. Dumbledore nous dit d'ailleurs qu'il faut plaindre ceux qui vivent sans amour. Oui. L'amour qui donne des raisons de vivre, notamment à l'adolescence. Ça, c'est important pour finir l'émission.
Oui, Alice, justement, et dans l'extrait que vous avez montré, là, le dernier que vous avez diffusé, il y a quelque chose de très important. Voldemort dit à Harry, si tu as survécu ce jour-là et si j'ai perdu mes pouvoirs, c'est à cause de l'amour que t'a donné ta mère. Et nous le savons tous, les lecteurs, depuis le début, que Harry possède une force que Voldemort ignore, et que cette force, c'est l'amour, force supérieure à la magie. J.K. Rowling parle aussi de la force puissante du langage et des mots. Elle nous dit finalement que nous sommes tous magiciens, que nous ayons reçu une lettre d'admission ou non, que nous soyons moldus ou pas, nous sommes magiciens, non pas parce que nous possédons la possibilité de jeter des sortilèges, mais la capacité à aimer et la capacité à parler. Et donc elle nous apprend à tous que nous sommes magiciens.
Harry Potter nous rappelle donc que la plus grande puissance d'enchantement au monde, c'est l'amour. Vous êtes d'accord avec ça, Ben HPTS ?
Oui, complètement. On a la découverte pour le héros de l'amour. On a ses premières histoires d'amour. Et de manière générale, on a l'amour qui est abordé dans Harry Potter. Donc, mais plein de thématiques, mais de la vie de manière générale. Et c'est mieux de finir sur l'amour que la mort, je pense.
Mathilde Lévesque.
Oui, et sur l'amour maternel, sans tout dévoiler là encore, mais on commence par le sacrifice maternel, mais il y a une autre mère, la mère de son ennemi, Drago Malfoy, qui va aussi sauver Harry à la toute fin et lui permettre la victoire finale.
Brieux, un mot de conclusion ?
Dans les grandes dimensions de Harry Potter, j'avais ainsi pensé, il faut vivre au jour le jour et accepter son sort. Donc ça rejoint quand même l'idée de la mort, même si on essaye de s'en éloigner.
Marianne Chaillant, il faut accepter tous les aspects de la vie, les aspects négatifs et positifs. Il faut être nietzschéen quelque part, hein, en quelques mots.
Et puis si vous voulez finir sur une note positive, alors rappelons que Dumbledore nous enseigne que le bonheur peut être trouvé, même dans les périodes les plus sombres. Il suffit de se rappeler d'allumer la lumière, et il est vrai que nous vivons des mois particulièrement difficiles. Dumbledore nous dit, il est toujours possible d'être heureux même lorsque nous traversons des périodes douloureuses.
Merci beaucoup Marianne Chaillant. Je recommande vraiment la saine lecture d'Harry Potter à l'école de la philosophie. C'est publié chez Ellipse et vous étiez en duplex de France Bleu à Bordeaux. Nous remercions les équipes sur place. Merci Ben HPTS.
C'est
compliqué. Ben HPTS, guide de survie magique, traverser l'adolescence grâce au pouvoir d'une saga symbolique. Tiens, je te l'offre, Brieux. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci Mathilde Lévesque d'être venu ce matin, et merci Christina Pelledouelle. Demain, comment faire du ménage et du rangement une partie de plaisir? Quels sont les bienfaits psychologiques? On s'intéressera également à la charge mentale du ménage et vous verrez quels sont les produits ménagers les moins toxiques selon 60 millions de consommateurs.